Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Pour se lancer en freelance, tout commence donc par un tilt, cette étincelle qui nous pousse à nous engager dans l'aventure de l'indépendance. Puis, la réalité du quotidien nous rappelle rapidement qu'une activité en free doit être rentable, durable et surtout bien gérée. C'est pour cela que j'ai décidé de consacrer le mois de mai 2024 au freelancing, ce mode de travail très convoité. J'avais envie de vous partager des inspirations et des outils pour être bien préparé et bien équipé pour cette nouvelle vie pro. Et je suis ravie de vous annoncer que pendant tout le mois du freelancing, je suis en partenariat avec Blank. Blank, c'est le compte pro des indépendants. Un outil clé en main pour gérer vos finances et votre comptabilité en toute simplicité. En choisissant Blank comme compagnon de route, vous accédez à une multitude de services qui vous aideront à vous focaliser sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire votre cœur de métier. Avec Blank, nous partageons d'ailleurs une conviction au sujet du freelancing. Devenir indépendant est un choix professionnel singulier, excitant et exigeant. Et pour que cette aventure soit une réussite, notre mission est de vous aider à comprendre les défis du lancement en freelance et renforcer votre confiance en vous et en votre projet, qui vous permettra d'opérer ce changement pro tant attendu. Pour ce premier épisode du mois du freelancing, j'ai convié Laurie Freitas à mon micro. Préparez-vous à recevoir une grande dose d'inspiration. Laurie a le type de parcours professionnel qui m'interpelle tout particulièrement. Elle est passée de salariée en CDI d'une grosse entreprise leader dans le média et le digital à freelance. Et dans sa vie de freelance, elle a deux activités professionnelles. D'un côté, elle est fleuriste et de l'autre, elle est consultante en communication digitale pour des artisans. Alors, bien sûr, j'ai voulu mieux comprendre son chemin audacieux et créatif. Je lui ai posé plein de questions. Comment passe-t-on de salarié à freelance? Comment devenir slasheuse indépendante? Comment se partage son temps entre ces deux métiers? Et puis bien sûr, comment elle organise sa vie de freelance? Nous avons abordé ses outils de gestion de sa micro-entreprise, sa prospection, sa gestion du temps, ses tarifs. Bref, j'ai mouliné Laurie pendant une heure et cette discussion inspirera toutes celles et ceux qui rêvent d'une vie de slasher en freelance. Bonne écoute! Salut Laurie.
Salut Léa, merci de me recevoir.
Bienvenue sur le Tilt, je suis ravie de te recevoir à mon micro. Laurie, on s'est rencontrés dans une autre vie professionnelle.
Ouais.
Je travaillais pour une plateforme de freelancing et tu étais freelance.
Exactement.
Et donc on a dû s'appeler à l'époque, s'envoyer des mails pour te trouver des missions. mais à l'époque, tu étais freelance, mais pendant que tu étais
étudiante.
Mmh. Et entre-temps, tu as eu toute une vie professionnelle salariée. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement cette reconversion et puis ta nouvelle vie de slasheuse indépendante. Mmh. Je vais te poser plein de questions pour comprendre quel a été ton parcours et puis à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire qui tu es, Laurie, sans parler de ton travail,
oui, s'il te plaît? Alors, du coup, je m'appelle Laurie, je suis née à Paris, grandie en Picardie, limite Champagne-Ardenne, donc plutôt sympa. Revenue à Paris il y a 11 ans pour mes études. Je suis quelqu'un d'assez créatif de base, bonne vivante aussi. J'aime beaucoup vivre ici justement pour toutes les adresses food, etc. Ma vie sociale est aussi hyper importante. Donc, pour ça que je suis bien ici aussi, c'est d'avoir mes amis proches et de pouvoir faire plein de choses en lien avec la culture et Et la bouffe.
Génial. Ça a été une partie de ta vie pro d'ailleurs.
Ouais,
la food.
Exactement, exactement.
Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai deux activités professionnelles. Donc je suis à mon compte. J'ai à la fois une activité de, on va dire plus conseil en communication digitale / social media manager pour des artisans, des petites marques, des restaurants, etc. Et de l'autre part, j'ai l'activité de fleuriste que j'exerce soit en extra dans des boutiques, soit à mon compte sur de l'événementiel, pour des mariages, pour des scénographies ou ce genre de choses.
Génial. Et c'était quoi ta vie professionnelle avant finalement ce slash ?
Ouais. Ben avant, j'étais salariée. J'étais dans un gros groupe qui s'appelle Webedia, qui a beaucoup d'activités d'influence et de médias, donc les plus connus étant Allociné, 750 grammes, etc. Donc moi, j'étais vraiment sur la partie food. J'avais une mission, on va dire, un peu complète de business development et de conseil en stratégie pour permettre aux annonceurs de prendre la parole sur les assets Webedia, que ce soit de l'influence, que ce soit des contenus de prod. Je travaillais beaucoup avec les chargés de production et la boîte de prod de Webedia pour faire, par exemple, des recettes. Donc, j'ai travaillé... un de mes gros clients était le groupe Seb, par exemple. On faisait des recettes avec Cyril Lignac pour Moulinex ou ce genre de choses. Et donc, ça, c'était ma vie d'avant qui a duré dans ce groupe... 5 ans avec des allers-retours.
Ouais, alors c'est en off, on s'en parlait. C'est oui. Intéressant parce que tu as été vraiment... tu as été le cliché du salarié boomerang.
Oui, exactement.
Est-ce que tu peux nous dire cette période d'aller-retour avec Webedia? Wow. Parce que c'est très intéressant.
Si mes anciens collègues écoutent ça, ils vont vraiment se marrer parce que du coup, ils m'ont fait 3 pots de départ.
Mais... c'est fort, c'est fort.
Voilà, c'était le running gag, genre c'est pour les cadeaux en fait. Mais du coup, en fait, j'étais un pur produit Webedia dans le sens où j'ai fait mon alternance là-bas. Dans ce qui est maintenant Jellyfish, mais qui à la base était brand services. Donc vraiment, je faisais du conseil édito et du brand content sur des marques du Crédit Agricole, Engie, etc. Donc j'ai fait vraiment mon alternance là-bas. Je suis partie, donc j'ai fait ce premier pot de départ, aussi parce qu'il y a eu une restructuration. Webedia est très fan des restructurations. Et il n'y avait pas de CDI pour moi à la clé. Donc je suis partie une première fois. Je suis allée dans une petite agence de com où là, ça n'a pas du tout fité. L'ambiance ne m'allait pas, les missions ne m'allaient pas. Et vraiment, je suis rentrée dans une grande période de déprime. Enfin, vraiment, j'ai pris énormément de poids parce que j'étais à côté des Galeries Lafayette Gourmet et tous les midis, j'allais m'enfiler des macarons. Parce que vraiment, je déprimais. C'était mon petit truc de me dire « la journée va passer plus vite
ouais. ».
Et donc, au bout de 3-4 mois déjà, je me suis dit « quelle angoisse, il faut que je reparte ». Et à ce moment-là, mes anciens collègues de Webedia me disaient « c'est trop dommage de t'avoir perdu dans la boîte, il faut que tu reviennes, il se passe quelque chose à la food ». Et donc, j'ai passé des entretiens au pôle food. Et en fait, c'était sur un métier plutôt dimension commerciale. Et moi, je m'étais toujours juré de ne jamais faire de commercial. Je n'aime pas la pression des chiffres. Je n'aime pas avoir des objectifs chiffrés. J'aime plutôt le côté créatif du métier de la communication. Donc, du coup, ça ne m'allait pas trop sur le papier. Au final, en présentant le poste, on m'a dit « mais tu vas voir, enfin, bien sûr, il faut prospecter, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça ». Donc je me suis dit « ça peut être grave sympa ». Et surtout, moi, je voyais aussi cette opportunité de rentrer dans la food et d'avoir cette dimension food que j'aimais tant.
Ouais.
Donc j'ai passé près de 2 ans sur ce poste. C'est un travail assez fatigant. Et donc on m'avait dit au bout d'un an, 1 an et demi, « voilà, tu vas bouger, ton poste va évoluer ». Et en fait, bah, au bout de presque 2 ans, bim, restructuration. Again.
Et là, le second voilà. Départ.
Et là, je me dis, j'ai pas de la place là-dedans, second départ. Donc, je pose ma démission, qui est pas très bien reçue par ailleurs, et je pars chez Sens Critique, donc dans le cinéma, avec vraiment cette envie de. Enfin, une autre de mes passions qui est le ciné, sur une création de poste, et pareil, de business development. Donc, en fait, je me rends compte aussi que je m'enferme un peu dans ce truc-là. J'arrive pas à postuler ailleurs, ou quand je postule ailleurs, on me dit ah non, vous êtes commercial, vous faites du biz dev.
Ah oui, d'accord. Tu sens déjà que ces quelques années dans un poste commercial, finalement, ça est en train de t'enfermer.
De m'enfermer.
Ouais. Mmh.
Donc, je prends ce poste en biz dev, création de poste dans une petite structure où. Je pense qu'ils n'avaient pas, défini ce qu'ils attendaient de ce poste. Je suis arrivée au bout de 3 jours. Fallait déjà que j'ai des rendez-vous avec la SNCF, avec L'Oréal. Il n'y avait même pas d'offre de construite. Enfin, vraiment, c'était assez lunaire. Et donc, pareil, au bout de 24-48 heures. Et moi, en plus, je suis très... on va dire que l'ambiance qu'il va y avoir dans l'entreprise et ce que je perçois dès le début, ça m'affecte énormément. Et donc, je suis un peu comme à l'école, quand j'étais pas dans la même classe que mes copines, je rentre, je pleure, quoi. Et donc, du coup, là, je suis rentrée, je me suis dit, ça va pas le faire. J'ai fait, en plus, donc, je suis arrivée là, c'était au début du Covid. Donc, on a été confinés peut-être un mois après que je sois arrivée. Donc, chômage partiel sur un poste qu'on vient de prendre, sur une création de pros pour du biz dev dans le cinéma. Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui s'alignait.
Donc, la rebelote Webedia.
La rebelote Webedia. mon ancienne binôme.
Un ex toxique, voilà, qu'on ne peut pas quitter.
Exactement. Il y a une relation malsaine. Et là, on me rappelle en me disant « Ah, mais Laurie, mais là, c'est pour une évolution de poste. Tu vas prendre des gros annonceurs. Ça va être chouette, etc. » Donc, j'y suis retournée sur ce nouveau poste. Et en fait, les gens m'ont dit « On a l'impression que tu n'es pas partie. » Parce qu'en fait, il y a eu le confinement. Donc, mais oui, tu étais partie. Et donc, j'y suis restée un peu plus de 2 ans. Et j'ai fait ma rupture conventionnelle à la fin pour changer, du coup, complètement de vie.
Alors, qu'est-ce qui t'a justement mis sur le chemin de la reconversion ?
Ouais. En fait, déjà, le fait d'être enfermée dans ce côté commercial, ça me pesait depuis un moment. Et j'ai essayé plein de fois de postuler ailleurs, d'en sortir. Et en fait, quand je voyais, je me faisais démarcher, c'était toujours pour des postes de biz dev, sur des régies, sur des trucs médias qui vraiment me font pas rêver. Enfin, je peux comprendre qu'on aime l'adrénaline du commercial et tous ces métiers, mais moi, vraiment, c'était pas pour moi. Et en fait, il y a un moment, ma boss, Mathilde, est partie en congé maternité pour accueillir son deuxième enfant. Et donc, c'était une période où, en fait, notre équipe était en restructuration. Donc, une petite équipe au sein de Webedia. Sur la foule, on était 4-5, on va dire, avec un poste en apprentissage. Et elle me dit, bon, bah, écoute, Laurie, moi, je pars en congé mat. Semaine plus 2, m'a dit, moi, je vais t'aider, mais tu vas être à cheval sur le poste de Mathilde et ton poste à toi.
D'accord.
Et donc, du coup, là, je découvre le poste du dessus, ce qui aurait été mon évolution professionnelle un jour, de directrice commerciale. Beaucoup de stress, beaucoup de politique, beaucoup de Excel et de chiffres. J'essaye de tout absorber en même temps, d'être partout, d'accompagner en même temps mes collègues qui arrivent sur les postes et donc il faut leur expliquer les process, en même temps d'atteindre les objectifs.
C'est trop.
C'est trop.
Ouais.
Et vraiment, ça dure trois mois où vraiment je me dis waouh, ça va plus. Et moi, j'ai toujours eu et je disais toujours à mes alternants, on ne sauve pas des bébés dauphins, on ne sauve pas des vies, genre on se détend.
On fait de la pub.
On fait de la pub, hein, et on vend des trucs pour des marques de food, enfin, où vraiment il y en a. Il y avait aussi ça, il y avait un problème de cohérence entre mes valeurs et ce que je vendais quand je faisais de la pub pour des gros groupes de l'agroalimentaire qui sont pas très clean, qui sont des grands acteurs, on va dire, de problèmes dans la santé publique. Si tu veux, j'avais aussi un peu de mal avec ça. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire ?
Ouais.
Et je fais un bilan de compétences, du coup. Je tombe sur une coach incroyable qui a été vraiment, je pense, le moteur et qui m'a fait avancer bien plus vite que je l'aurais pensé dans ce bilan. Je me dis que, il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Je sens le besoin de décrocher de l'ordinateur, de ne plus être enfermé dans un open space, dans un bureau.
Qu'est-ce qui, dans ton coaching, t'a permis de réaliser ça ?
Elle m'a fait pas mal d'exercices de projection en me demandant, par exemple, de me visualiser un moment dans quelque chose que j'aime faire où, en fait, je suis tellement concentrée qu'il peut se passer n'importe quoi autour, je ne vois pas.
Le flow,
voilà, ouais. Exactement. Et donc, du coup, elle m'a demandé de visualiser cet état qui est pour moi quand j'écris. Et donc, du coup, elle me demandait d'imaginer ce qu'il y avait autour de moi. Et donc, je voyais un environnement plutôt ouvert, je voyais de la couleur, je voyais des matières, je me voyais plutôt debout, je voyais des gens qui rentraient, qui sortaient. Et en fait, finalement, en tirant le fil, ça ressemble beaucoup à une boutique de fleurs. Donc, je voyais vraiment un atelier pour le
génial.
Coup. Et c'est un des exercices où je me suis dit, OK, d'accord, il y a quelque chose avec le créatif, mais matière. Et donc, du coup, en avançant petit à petit dans le coaching et dans les exercices du bilan de compétences, je suis arrivée sur le métier de fleuriste. Pour plusieurs raisons aussi, c'est qu'il y avait d'autres métiers qui me plaisaient bien, type joaillerie, etc.
Ouais.
Les débouchés ne sont pas les mêmes, les études ne sont pas les mêmes. Moi, je voulais aussi quelque chose où je n'ai pas à reprendre 5 ans d'études. Il fallait que ce soit quand même assez rapide, que je puisse mettre un pied directement dans le monde professionnel. J'avais déjà fait 5 ans d'études, j'étais déjà passée par plein de stages, etc. Je n'avais pas envie de me refarcir ça à presque 30 ans. Et donc, du coup, je me suis renseignée. J'ai écouté un de tes épisodes avec Bertrand, du coup, fleuriste.
On le salue.
Voilà. Salut à Bertrand. Et donc, du coup, je me suis dit, ça me paraît pas mal, ce job. J'avais la chance d'avoir un de mes très bons amis qui avait une de ses collègues qui était partie en reconversion l'année où moi, j'étais en train de me dire, je vais le faire l'année prochaine. Donc, du coup, on a été mise en relation. Elle m'a aussi beaucoup aidée à me dire ce qu'elle avait fait. Pareil, une autre personne avec qui j'étais à l'école a monté maintenant sa boutique de fleurs à Marseille et elle m'a pas mal aussi aidée sur le process. Je me suis rendu compte que je pouvais faire de l'alternance. J'avais encore l'âge d'être en apprentissage, donc d'avoir un salaire. Donc ça, c'était pas négligeable. Donc c'est le SMIC, mais entre le brut et le net en alternance, il y a 20 euros d'écart. Donc c'est hyper avantageux. Et en plus de ça, vu que j'avais réussi à partir avec une rupture conventionnelle, j'avais un accompagnement en plus de Pôle emploi. Donc en fait, mon salaire était quasi équivalent à ce que je gagnais chez Webedia en fixe. Alors, Webedia, c'est pas des énormes salaires, mais pour moi, ça me faisait pas une grosse descente. Ouais. Quoi.
Financièrement, c'était plus facile à organiser que si tu cutais ton salaire en deux.
Ah oui, complètement. Ouais. Et moi, c'était une de mes grandes craintes, le salaire. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Parce que j'ai mon loyer assuré, j'ai un train de vie que j'aime bien aussi. Enfin, je disais, j'aime bien les restos, j'aime tout ça. Ça part vite, mine de rien, même si on va pas dans des palaces, un coût de 15, 20, 30 euros par-ci, par-là. Et ça, j'avais pas envie de le lâcher non plus à 100%, donc c'était important pour moi. Et du coup, entre ma rupture conventionnelle et le début de mon alternance, j'ai eu 6 mois. J'ai pu faire des stages, plutôt des observations chez des fleuristes de quelques jours. J'ai fait du bénévolat aussi. J'ai aidé dans un centre de demandeurs d'asile pour m'occuper des enfants.
D'accord.
Ça m'a permis aussi de couper un petit peu avec tout ce monde de la
com.
C'est
une pause, en fait.
C'était une pause qui était nécessaire, je pense. Parce que si j'avais enchaîné, même 2-3 semaines, ça n'aurait pas été assez. Enchaîner mon ancien métier à ce rythme qui m'attendait, et que je n'attendais pas aussi d'ailleurs danse, ça aurait été trop. Donc cette pause, elle était vraiment bienvenue. Et je suis arrivée à la fin de cette pause en me disant, bon là, j'en ai marre, j'ai envie de recommencer, il faut que je bouge. Ouais.
Ah ça, c'est intéressant parce que, tu vois, souvent, on a peur un peu du trou dans le CV, tu vois.
Mmh.
Que ce soit de quelques mois ou peut-être un peu plus long pour un long voyage ou une vraie pause pour un autre projet. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est... En fait, à la fin, j'étais reposée. Enfin, j'ai pu combler ce besoin de pause et j'avais envie de repartir. Souvent, la peur, c'est aussi de se dire, mais si je m'arrête, je ne vais jamais repartir, en fait.
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a les phases au début où on a envie de rien faire. Parce que je pense aussi qu'on est vidé et sauré de ce qui s'est passé avant. Et après, je pense que ça dépend des gens. Moi, je suis quelqu'un, j'ai peur du vide. Donc, en fait, au début, compulsivement, je remplissais mon agenda, mais de n'importe quoi, hein, d'une séance de ciné, d'expo, voilà. Mais en fait, je me disais, je ne veux pas devenir l'archétype de la nana qui traîne en jogo dans mon canapé.
Au chômage, quoi.
Voilà, c'est ça. Et qui attend que le temps passe, c'est mort. Donc, du coup, j'avais rempli mon agenda. Et j'ai fait des week-ends à droite, à gauche. J'en ai profité, c'est tout bête, mais pour aller voir un peu plus ma famille, ma grand-mère qui n'est pas sur place. Et en fait, j'ai rempli le temps avec des choses qui me manquaient.
Ouais.
Et j'avais l'impression de courir après tout ça pendant que j'étais au boulot.
Ouais, je comprends.
Et ça m'a fait du bien et aussi de donner mon temps pour d'autres choses, pour d'autres causes. Mmh. Et puis me préparer psychologiquement et à ce qu'elle est arrivée.
Parce que du coup, à ce stade-là, tu n'avais pas encore commencé ta formation?
Non, du tout.
Et comment est-ce que tu as choisi l'organisme de formation?
Ouais. Alors déjà, moi, je n'avais pas les fonds pour me payer une formation. Donc, dans tous les cas, j'ai commencé à chercher en me disant, alors ok, où est-ce que je peux aller sans que ça me coûte un rein, parce que ça va très vite. Et je ne voulais pas non plus d'une formation, là où j'étais, l'école des fleuristes, l'école nationale des fleuristes, je vais me faire taper sur les doigts s'ils m'entendent. Ils proposent une formation adulte qui dure quelques semaines, mois, où on a aussi des conventions de stage, etc. C'est une bonne solution si on n'a pas envie de repartir un an en études, ou si on est trop vieux pour faire de l'apprentissage. Mais moi, je ne voulais pas ça parce que je me suis dit, j'ai envie de voir la réalité du métier. Il n'y a qu'en étant dans une entreprise toute une année que je vais pouvoir voir comment ça se passe. Et les saisons sont tellement différentes dans le métier en termes de ressenti que c'était important de le faire. Et donc, du coup, j'ai cherché, tout bêtement, les organismes les mieux référencés. Mon choix s'est porté sur l'École nationale des fleuristes de Paris. Donc, pour plusieurs raisons, Ils ont une qualité d'enseignement qui est quand même pas mal. Des intervenants qui sont bien. Il y a des meilleurs ouvriers de France dans les maîtres d'apprentissage, etc. Ils ont un bon réseau. Il y a un syndicat qui est rattaché à l'école, donc qui permet aussi d'avoir quand même un carnet d'adresses sur la profession qui est important. Voilà, ils sont assez visibles. Les locaux, c'est tout bête, hein, mais c'était aussi pratique pour moi pour y aller. Enfin voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient que je choisissais d'aller là-bas. Et donc, j'y suis rentrée en septembre. Et là, ça fait bizarre parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont soit... En fait, c'est juste après le bac. C'est-à-dire que tu peux faire, quand tu es fleuriste, un CAP en 2 ans. Quand tu sors quand tu as 16 ans, que tu as eu ton brevet, si je dis pas de bêtises, que tu veux pas partir sur une filière générale, tu veux faire fleuriste, tu fais un CAP en 2 ans. Si tu as déjà eu ton bac, le CAP est ramené en 1 an. Donc, en fait, on t'enlève les matières physiques, maths, etc., enfin, les matières générales, et on te condense ton programme, donc en botanique, en art appliqué, en pratique.
D'accord.
Et en vente, on te le condense en 1 an au lieu de 2. Donc, c'est un rythme un peu plus rapide, mais encore une fois, sans dévaloriser la formation, ça reste du CAP. Il y a des choses qui sont denses, la botanique, etc. Ça peut être le plus compliqué si on n'aime pas trop les sciences. Moi, j'adore ça. Ça m'a rappelé mes vestiges de mon bac S de l'époque. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être bien sûr plus dures. Mais là où on est tous sur le même pied d'égalité, c'est la pratique. Parce que qu'on ait fait, moi, en vente, bon, les cours de vente, ils ne me servaient absolument à rien. Enfin, je sortais
de... métier,
c'était
quoi.
Mon métier. Ouais. Donc vraiment, je crois que d'ailleurs, j'ai eu 20 à l'examen. Parce que je m'en serais
voulu d'avoir en dessous.
Oui, voilà, je me suis dit, bon, OK. Mais par contre, là où on est tous sur le même pied d'égalité, quel que soit le métier qu'on a fait avant, qu'on sorte juste du bac ou qu'on ait 15 ans d'expérience dans un truc, c'est la pratique. Et quand on a eu une carrière professionnelle, je pense que ça nous remet un petit coup sur l'ego de se dire « Ok, là, je repars de zéro. »
C'est-à-dire, comment tu l'as vécu, toi ?
Je me suis rendu compte que j'étais pas patiente. Alors, je le savais déjà, mais quand on bug sur une reco ou quelque chose avec lequel on utilise notre cerveau, c'est pas la même chose que quand on a des choses dans ses mains,
ouais.
En l'occurrence des fleurs, qu'on nous demande un résultat, qu'on nous a montré, on regarde l'intervenant faire, on se dit « oui, bon, ça va le faire », et puis en fait, on est dessus. Et le temps que c'est pas parfait, on dit « tu reposes, tu recommences ». Et en fait, mon premier cours de pratique, c'était un bouquet extrêmement simple. On est sur du feuillage et 5 roses. Mais en fait, ça paraît tout bête comme ça, mais il y a une technique qui s'appelle la vrille quand tu fais des bouquets.
C'est le truc où tu tournes là.
Exactement, quand tu retournes un bouquet, tu vois que c'est un peu en spirale. Donc cette fameuse vrille qu'on t'apprend, c'est le premier geste qu'on t'apprend. Et en fait, ben, c'est tout bête, mais moi, il y avait des contre-vrilles, et où mon bouquet était trop serré, où ma main était trop haute, voilà, et tout le monde. Et en fait, on repose, on recommence. Et au bout de 3 fois, je me suis dit, je vais prendre les fleurs, je vais les balancer contre le mur. Je vais péter un boulon. Qu'est-ce que je fous là? Donc vraiment, il y a ce truc de se dire, OK, je repars de zéro. Donc ça aussi...
C'est une respire. Nouvelle vie professionnelle.
C'est ça.
Ouais, il faut apprendre.
Et je me retrouve avec des gens qui ont 20 ans. C'est pas parce que j'en ai 28, 29 que je suis plus avancée qu'eux. Et voilà, on repart tous du même niveau, quoi.
Ouais. Donc, une petite leçon d'humilité aussi.
Complètement. Ouais. Je m'attendais pas à être aussi dure envers moi-même de ne pas y arriver. Parce qu'en fait, chaque jour, je me disais, j'ai laissé tomber une carrière pour ça. Donc, en fait, ma grande, t'as intérêt à y arriver.
Est-ce que ça t'a fait douter ? Est-ce qu'à certains moments dans le processus de formation, que ce soit à l'école ou pendant ton apprentissage, tu t'es dit, en fait, ce sera peut-être pas ça?
Je sais pas si c'est douté complètement, mais je pense que c'était plutôt quand j'étais en entreprise. Le mois de décembre a été hyper dur parce que le mois de décembre, en fait, on nous disait... Si vous continuez la formation après décembre, c'est que vous êtes fait pour le métier. Et je me dis, oh là, ils en font tout un pataquès, ça va bien se passer. Ça s'est passé. mais en fait, le mois de décembre chez Fleury, c'est un peu un marathon. Parce qu'il y a une dimension qu'on a qui est les sapins. Tous les fleuristes n'en font pas, hein, mais quand même les 3/4. Donc ça veut dire qu'en termes de logistique, c'est assez intense parce qu'on porte, on livre, on file les sapins, on les ouvre, on les machins. En plus de ça, il fait froid en décembre quand même, globalement. Et dans les boutiques de fleurs, c'est très rare d'avoir du chauffage. Hein. Et la porte est ouverte au moins les week-ends pour que les gens rentrent. On dit toujours qu'un commerce avec la porte fermée, c'est pas accueillant. Donc, du coup, les portes sont ouvertes. Donc, on est dans le froid. Et vu qu'il y a beaucoup de densité de travail, au lieu d'être sur un 35-39 heures, j'étais sur un 50 heures par semaine. Donc, c'est-à-dire mardi, dimanche, sur toute l'amplitude horaire de la boutique d'ouverture.
Wow. Donc, ouais. Voilà. Et puis, c'est quand même un métier physique.
Oui. Donc, t'es debout.
Toi qui venais d'un milieu où finalement, les métiers de bureau, c'est des métiers sédentaires. Ouais.
Mais je pense que le plus dur, le corps se fait vite. Franchement, moi, j'ai eu peur de ça. Alors, la première semaine, j'ai douillé. Mais franchement, le corps, ça a été le plus rapide à m'y faire. Et puis après, je suis quand même aussi sportive. Hein, donc, un minimum, je ne suis pas quelqu'un qui suis 100% sédentaire. Donc, ça allait. Par contre, le plus dur pour moi, ça a été le rythme. En fait, d'être en décalé, je savais que j'allais être en décalé. Je savais que j'allais travailler des week-ends, etc. Et je me disais, si je suis passionnée par le truc, je le sentirais pas. Mais comme je disais en intro, ma vie sociale est hyper importante. J'ai un mari en plus qui, lui, est dans des métiers de bureau et où il se déplace en Europe 2-3 fois par semaine. Et donc, en fait, quand moi, j'étais en congé les lundis, mercredis, lui, il était ailleurs en Europe, donc on ne se voyait pas. Le lundi, c'est cool d'être en congé, on est à contresens de tout le monde, ça fait du bien. Et le soir, je finissais à 20h, bien souvent, la boutique ferme à 20h, le temps que tu remballes, machin truc, tu pars à 20h15, quoi, 20h20. Et en fait, quand les gens te disent « tu viens boire un verre après le boulot », t'es rincé.
Ouais, t'es claqué,
quoi. T'as passé 9 heures debout, enfin, vraiment, t'es au bout. Et je suis rentrée des soirs où vraiment j'ai été épuisée et je pleurais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé mon confort? Et après, ce qui a été aussi très drôle, c'est que j'ai une super collègue qui s'appelle Claire, qui m'a beaucoup appris aussi pendant mon apprentissage, en plus de ma maîtresse d'apprentissage. Et en fait, quand je suis arrivée et qu'elle m'a demandé ce que je faisais avant, qu'on m'a parlé de salaire, etc., elle m'a regardée, elle m'a dit, mais t'es une grande malade.
Ah ouais.
Moi, si j'avais eu la chance de faire des études et de gagner ce que tu gagnais avec le confort d'un bureau, j'aurais jamais fait ça. Alors qu'elle est passionnée par son métier.
Ouais.
Et du coup, oui, il y a des moments où tu te dis, est-ce que j'ai bien fait vraiment? Est-ce que j'ai bien fait? Et c'est pour ça que j'ai pas continué d'ailleurs à 100% de faire ça.
Et alors justement, t'as réalisé ton apprentissage et comment, à la fin de cet apprentissage, t'as commencé à réfléchir à une forme de slash?
En fait, c'est arrivé plus tôt. C'est arrivé même très tôt, j'ai envie de dire. Quand je suis arrivée chez Camille, qui était donc ma maîtresse d'apprentissage, qui est maintenant ma cliente, elle passait par une agence pour ses réseaux sociaux. Et disons que j'ai regardé ce qui se faisait, je lui ai dit, en vrai, on peut faire mieux, on peut faire un peu plus créatif, on peut faire sympa. Et l'environnement floral, enfin moi, c'est une passion, j'ai découvert cet univers qui est sublime. Enfin, c'est Noël tous les jours quand t'as l'arrivage et que t'es passionné par ça et que tu découvres des nouvelles variétés, enfin...
D'ailleurs, vous ne voyez pas, les auditeurs et les auditrices, mais tu as une fleur tatouée sur le poignet. Oui, tu as des boucles d'oreilles. Vraiment, ça fait partie de toi, quoi.
Ouais, vraiment, ça date d'avant, pour le coup, le tatouage, d'avant que je fasse cette reconversion. Mais vraiment, il y a un truc qui m'émerveille là-dedans et de me dire que la nature est capable de produire ça, c'est fou. Et donc, je me disais, je voyais ces réseaux et je me disais, mais ça ne ressort tellement pas. Enfin, vraiment, c'était très commercial. Bon, très lisse, il n'y avait pas de vie, on ne voyait pas ce qu'elle faisait. Elle a quand même un talent incroyable et je trouve qu'on ne le valorisait pas assez. Et je lui ai dit, mais écoute, moi, c'était mon job quand même. Donc, si tu veux, sur mon temps de travail, je t'accompagne là-dessus. Lâche ton agence, ça va te faire économiser des centaines d'euros par mois. Et moi, je t'aide là-dessus. Et donc, je l'ai fait sur mon contrat d'apprentissage. Et puis, plus je le faisais... Plus elle me disait quand même, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et j'étais là, genre, je veux pas retourner dans les bureaux, je veux pas reprendre mon job à 100%, j'aime trop la fleur pour ça, enfin, je veux continuer de pratiquer. J'aime bien m'occuper de tes réseaux pour le coup. Et elle m'a dit, écoute, franchement, si tu te lances à ton compte ou un truc, moi je te garde, enfin, je veux que tu t'occupes de mes réseaux. Et donc l'idée a commencé à germer, où je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas couper mon temps en deux en fait? Pourquoi je pourrais pas m'occuper de plus petites marques, par contre, ne pas repartir sur de la com pour des gros groupes, etc.
Ouais.
Sauf quelques missions, voilà, faut bien vivre aussi. Mais globalement, d'être plutôt sur des petites marques ou voilà, de des artisans. Et donc, j'ai pris un café avec mon ancienne N+2, je lui en ai parlé un petit peu, et je lui ai dit, bon, voilà, je me tâtais potentiellement à me mettre là-dessus et tout. Et elle, direct, elle me dit, mais Laurie, moi, de toute façon, je t'ai dit que t'étais faite pour ce métier, donc ne lâche pas cette idée, c'est trop intéressant, c'est intelligent ce que tu veux faire, accroche-toi au truc. Et donc, quelques mois après, donc au mois d'avril, j'étais quasiment sur la fin de ma formation, elle me dit, bah, j'ai telle personne qui est venue me voir, qui lance sa marque d'huile d'olive sur le luxe. Je lui ai dit que tu pouvais l'accompagner sur les réseaux. Donc, je n'avais même pas lancé ma structure. Est-ce que ça te dit de la rencontrer ? J'ai dit d'accord. J'ai été très cash dès le début en lui disant, bah, moi, j'ai deux activités. Là, je suis en formation jusqu'à... Enfin, je suis en boutique jusqu'à fin juillet, début août. Je passe mon CAP en juin. Enfin, voilà. Donc, j'ai commencé quand même à travailler pour elle sur des recos, etc. D'accord. Et donc, je suis arrivée finalement à avoir mon diplôme où j'avais déjà deux clients potentiels qui voulaient travailler avec moi sur l'année. Pour que je les accompagne tous les mois sur leur réseau. Donc, en fait, j'ai envie de dire, ça s'est fait sans trop que j'y pense non plus.
Ouais, c'était naturel.
C'était
en fait.
Naturel.
En fait, c'est une forme de transformation de ton ancienne vie pro, mais adaptée à tes besoins
c'est
aujourd'hui.
Ça.
Quoi.
Exactement. Et après, j'ai eu mon coiffeur que je connais depuis 8 ans, qui lui, je sais, il en avait ras la casquette des réseaux. Enfin, ça le gonfle de gérer. Il m'envoyait un petit message parce qu'il suivait ce que je faisais, bien évidemment. Qui ne se confie pas à son coiffeur quand on est en train de faire couper les cheveux.
Moi, ma coiffeuse est venue à mon micro.
Ouais, donc, bon, tu voilà. Vois. Et du coup, il m'envoyait un message genre, mais en fait, combien tu prends pour faire ça? Parce que vraiment, moi, ça me saoule. Et donc, c'est devenu mon troisième client.
Ah ouais.
Donc, en fait, je suis arrivée en septembre. En revenant de mon voyage de noces, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Et en fait, je me suis dit, bah, banco, je vais pas prendre trop de missions parce que je veux me laisser du temps pour la fleur.
Ouais.
Aujourd'hui, la réalité étant quand même que c'est très saisonnier. Là, mai, juin, juillet, août, je vais avoir des mariages, donc je vais remettre le nez dedans.
Ouais.
Là, on va dire que ça a été plus calme. Je vais avoir la fête des mères aussi en boutique où je vais travailler 4 jours plein.
Oui, parce que finalement, le métier de fleuriste, c'est quand même centré autour de fêtes aussi.
Ouais.
Beaucoup. Saint-Valentin, fête des mères.
Fête des mères, c'est la plus grosse fête chez les fleuristes.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Ça étonne souvent les gens, mais c'est le plus gros chiffre d'affaires et de loin. Généralement, c'est ce qui paye la fermeture estivale d'une boutique. Et en même temps, tu reçois une dose un shot, je sais pas comment dire, presque d'amour des gens, parce qu'en fait, ils sont tous sur ces fêtes-là dans une bonne vibe. Enfin, les gens sont contents de venir, même si des fois, ils attendent bien une bonne demi-heure. Mais ils sont contents, bon, c'est chill, ils vont faire plaisir à quelqu'un.
J'ai une anecdote à ce sujet. Il se trouve que en troisième, j'ai fait mon stage chez un fleuriste.
Ouais,
bref, voilà.
Okay.
Et sur la semaine de la Saint-Valentin.
Ouais. Wow.
Et j'ai été notamment en charge de livrer les bouquets.
Ouais.
Et je me souviens que ça m'a laissé un sentiment incroyable parce que en fait tu sonnes chez les gens et c'est une surprise et les gens ils voient le bouquet de fleurs et il y a un truc vraiment de l'ordre de l'émotionnel quoi.
Exactement.
Et je trouve que enfin sans se leurrer sur la réalité aussi du métier, tu as quand même un truc de waouh quoi.
Ouais, c'est ça qui est beau. Et t'as aussi un truc, on vient te voir et quand les clients rentrent, ils disent waouh, c'est beau, vous travaillez.
Et donc du coup, là aujourd'hui, toi, ton activité freelance en tant que fleuriste, finalement, elle est saisonnière aussi.
Ouais.
Tu viens en renfort
renfort
des boutiques.
Exactement.
sur ces
grosses fêtes. Et puis après, j'ai eu la chance de faire des choses plutôt sympas, donc qui changent de ce qu'on pourrait attendre d'un fleuriste, ou penser en tout cas. Par exemple, en décembre, j'ai fait le décor d'une production vidéo pour les Galeries Lafayette.
Ah, c'est génial.
Pour leur bûche de Noël. Donc, où j'ai fait le centre de table, le décor de table sur un thème un peu Bacchus. Et donc, du coup, ça, c'est très chouette. Et c'est des choses que j'aimerais bien pousser plus à l'avenir parce que c'est hyper intéressant. Et on ne travaille pas de la même façon. Quand ça va être pour une production vidéo, il faut que ce soit sous tel angle, hyper beau, à tel moment, que quand on travaille sur des fleurs en boutique où le bouquet, il faut qu'il dure 10 jours, ou quand on travaille sur un mariage ou un événement où ça doit être bien pendant 48 heures, on va dire grosso modo. C'est jamais les mêmes façons de travailler la fleur. Et vraiment le travail, moi j'ai adoré ce travail de vidéo.
Ouais.
C'est de se dire quand je fais un centre de table pour un dîner, il faut qu'il soit parfait sous toutes les coutures parce que les gens vont être assis, donc ils vont voir en dessous s'il y a un trou, s'il y a machin. Là c'était filmé du dessus, donc en fait ça servait à rien d'aller dans les détails. Ouais. Par contre tu peux faire plus généreux et en fait tu vas travailler techniquement, c'est pas juste, forcément, parce que ben, y a des zones qui sont plus chargées que d'autres. Ouais. Mais en fait, c'est là qu'est le travail intéressant, je trouve, c'est de se dire, il faut que je sois dans l'œil de la vidéo, faut pas que je sois dans le travail technique floral.
C'est trop intéressant parce qu'en fait, c'est tes deux regards. C'est ton regard de communicante et ton regard de fleuriste
qui m'apporte beaucoup. En fait, les deux chacun nourrit l'autre. Mais il y a des fleuristes qui sont extrêmement talentueux et des artisans, je parle au global, mais qui ne vont pas avoir les codes de la communication et en fait, qui ne vont pas percer parce qu'ils n'ont pas fait la vidéo qui marchait, parce qu'ils n'ont pas... Et en fait, c'est trop dommage. Et donc, il y a des gens aujourd'hui, comme moi, qui ont fait avant une autre carrière dans le marketing, dans la com, qui vont lancer leur business.
Et ça va marcher.
Et ça va marcher. Ouais. Parce qu'ils vont avoir déjà un réseau, parce qu'ils vont avoir les codes, etc., visuels.
Ouais.
Mais qui vont quand même avoir beaucoup moins d'expérience. Et...
Oui, en fait, c'est tes compétences dans ton ancienne vie professionnelle qui sont transposables pour faire marcher ta nouvelle activité.
C'est ça.
Et ça, c'est non négligeable. Et je pense que justement, c'est important aussi de savoir d'où on part quand on a une nouvelle vie pro, tu vois.
Complètement. Faut savoir en quoi ce qu'on a fait avant, faut se dire, et ça, ma coach m'a beaucoup aidée dessus. Elle m'avait dit, tout ce que tu as fait là, ça partira jamais à la poubelle.
Bah
et c'est vrai que c'est hyper important. Et de se dire aussi, on prête beaucoup plus de risques qu'est-ce qu'il en est vraiment dans le fait de se lancer. C'est que on est en France, on est quand même dans un pays où on a beaucoup d'aide si on se renseigne bien, où il y a toujours un filet de sécurité quelque part. Si on n'est pas bien dans son job, qu'on rêve de se lancer, moi je dis faut le faire. Donc, évidemment, il faut pas se mettre dans une situation financière complexe et il faut pas.
En fait, ça se prépare. C'est une gestion de projet. Moi, je dis toujours à mes clients en transition pro, c'est tu vas gérer un projet.
Complètement.
Donc, bien évidemment, l'aspect financier est très important. Comment est-ce qu'on le gère en fait?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait des Excel bêtes et méchants.
Voilà.
Et aussi, oui, il y a pas forcément un choix à faire. Il faut juste être, je pense, transparent avec ses clients. Moi, ils savent tous que j'ai deux activités. Donc là, par exemple, j'ai aucun problème à dire de tel jour à tel jour. Donc là, je vais avoir plein de mariages, etc. Quand c'est moi qui fais mes décors, ça veut dire que 2h30 du matin, je suis debout pour aller à Rungis et derrière, j'enquille sur ma journée de préparation et le lendemain, j'enquille sur l'installation. Donc en fait, je vais être éclatée.
Mm-hmm. Et donc il n'y a pas de recours stratégique.
Il n'y a rien. Donc là, vous me laissez tranquille, je coupe mon téléphone. Et en fait, j'ai aucun mal à leur dire là, les 3 jours qui arrivent, tu m'oublies, quoi. Je prépare bien évidemment le travail avant. Je fais beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je programme tout. Je check quand même. J'ai une conscience professionnelle. Mais par contre...
Pas de travail de fond.
Ah non, je peux pas. Je peux pas prendre d'appel. J'ai les mains dans le cambouis, en fait. Ouais. Donc, de toute façon, mon téléphone, j'ai même pas le temps de le regarder. Donc, ça, c'est hyper important. Je pense que c'est d'être transparent. Si vous vous lancez sur une double activité avec les gens avec lesquels vous travaillez pour qu'ils comprennent votre rythme et qu'ils comprennent que peut-être à tel moment... lundi, je ne vais pas travailler parce qu'en fait, j'ai fait du jeudi au dimanche la fête des mères et que là, j'ai juste besoin de dormir et de me reposer et de ne pas avoir la tête farcie. Parce qu'il y a ça aussi, c'est de se dire la difficulté, c'est de prendre beaucoup de choses et de vouloir cumuler les deux rythmes. Par ça, j'entends de se dire on va réussir à bosser le week-end et puis le lundi, on renquille sur du bureau. C'est peut-être un peu moins fatigant parce que c'est que du bureau. Non.
En fait, c'est deux types de fatigue différentes.
Complètement. Différents. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment la fatigue physique et la fatigue plus charge mentale avec l'activité de consulting. Moi, je gère mieux la fatigue physique parce que il suffit de dormir. C'est tout bête, mais on dort. Et par contre, ça c'est une grosse satisfaction dans les métiers, je trouve, manuels. Enfin, en tout cas, on utilise son corps et son outil de travail. On dort vachement bien quand on se réveille pas du coup au milieu de la nuit pour aller chercher les fleurs, mais on dort vachement bien et on a une liberté d'esprit
qui est énorme.
Et je parle de ça en étant salarié. On a sa boutique de fleurs, on cumule quand même.
Oui, oui.
Parce que faut penser à
toucher la partie entrepreneuriale.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas me lancer dans une boutique parce que j'étais très consciente de ma capacité. Et de la place que je voulais laisser à mon travail versus ma vie perso.
Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que je trouve que sur des métiers d'artisanat comme les fleuristes, on se dit pas forcément comme ça que c'est possible de le faire en freelance.
Mmh, exactement. Mais quand on rentre dans le milieu, on se rend compte qu'il y en a beaucoup.
Ouais.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, les fleuristes ont du mal à recruter des CDI. C'est un gros sujet dans la profession, justement parce que les conditions de travail sont pas top et les salaires pas top non plus. Ils montent. Alors après, ça dépend énormément. Déjà, de Paris versus le reste de la France... Et je dis Paris, grande ville aussi, t'as quand même c'est sûr, des différences de salaire. Enfin, le SMIC ne bouge pas. Ensuite, tu peux monter responsable boutique ou responsable d'équipe en fonction de la taille aussi de la boutique. Vraiment, ça va dépendre de où tu es. Mais un responsable boutique, il doit être autour de peut-être 2005, 3000 net. Je ne me rends pas trop compte. Je ne veux pas, vraiment pas dire de bêtises, mais on va dire peut-être autour de 2500 sur une petite boutique. Ce qui, par rapport aux responsabilités, n'est pas énorme. Et là où tu vas gagner, on va dire, le plus, c'est en faisant des heures sup. Là, pour le coup, par contre, si tu es aux 39 heures ou aux 35 heures, tu es aux 35 heures ou aux 39 heures.
Ouais, c'est comme ça, quoi.
C'est comme ça. Et tu pointes tes heures sup, tu te notes vraiment toutes tes heures sup. Et par contre, tu arrives à la fin du mois, c'est là, j'ai
ouais, il faut payer, quoi.
En plus, il faut ouais. payer. Et donc, du coup, c'est déplafonné, c'est 25%, puis après 50% de plus, puis d'accord. après payer double en fonction ouais. du nombre d'heures et en fonction de la taille de la structure. Donc, c'est comme ça que tu peux te faire des gros salaires.
D'accord. Ouais.
Aussi en faisant des installs et des désinstalls, généralement c'est de nuit, tu es payé double quand tu es sur un forfait de nuit.
D'accord.
18. Mais ça reste des salaires qui sont, tu vois, même en free, pas énormes parce que tu enlèves tes charges. Si j'attaque la partie légale, si tu es sur freelance fleuriste, soit tu es une activité libérale parce que tu fais vraiment que de l'extra.
D'accord.
Dans les boutiques, etc. Et dans ce cas-là, c'est la même cotisation pourcentage que si tu fais du service dans la com, etc. Donc, c'est 20,6 de mémoire. Par contre, si tu fais tes décors et donc tu fais de l'achat-revente, là, tu passes sur une activité de négoce. Donc, mais du coup, oui, si tu passes sur une activité vraiment achat-revente-négoce que tu dépends de la Chambre des métiers de l'artisanat, là, c'est une taxe, enfin une cotisation à 10%. Donc moi, c'est ce que j'ai. J'ai deux
que du
activités.
Coup, ouais, comment ça s'organise ? Toi, tu es en micro-entreprise ?
Exactement.
Ok, et donc tu as deux micro-entreprises ?
Une seule.
D'accord.
Avec deux activités. Tu peux déclarer, quand tu crées ta micro-entreprise, plusieurs activités. Donc d'accord. une activité principale qui est pour moi la communication parce que c'est ce qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires à l'heure actuelle. Et une activité secondaire qui est l'activité du coup de fleuriste
d'accord.
en négoce, où là je suis rattachée à la Chambre des métiers de l'artisanat.
D'accord.
Et donc en fait, quand je fais ma déclaration tous les mois, donc faut bien que j'ai deux fichiers comptables dans ma tête quand même,
ouais.
parce que je déclare dans une case mes activités de service libéral en com.
Qui sont imposées à un certain montant.
Voilà, à 20%, 20,6 URSSAF. Et mes activités de négoce qui sont à 10 et quelques.
D'accord.
Donc là, par exemple, les mariages cet été, ça va rentrer dans cette case-là.
Ok.
Donc, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut être discipliné.
Ouais.
Par contre, il y a des montants maximum de chiffre d'affaires à atteindre en micro-entreprise qui ne sont pas les mêmes entre l'activité de négoce et libérale.
C'est quoi la différence ?
Je crois que c'est... Alors, je ne les ai plus exactement en tête, mais... Je te donne une grande échelle. Je crois que c'est autour de 75 000 euros pour des activités de libérales
ouais.
par an. Et par contre, négoce, c'est 110 000.
Ah
pour
oui,
la simple et bonne raison qu'on achète et qu'on revend.
Bah oui.
Donc en fait, notre marge, sur ce que le coefficient multiplicateur en moyenne dans les fleurs, c'est 1x3.
D'accord.
Entre ce qu'a acheté et ce qui a été revendu.
Ok.
Sachant que sur les fleurs, tu ne mets pas de TJM, tu vends au forfait, je sais pas moi, pour mes mariages, un centre de table, c'est tant, une arche, ça dépend de l'arche, mais tu ajustes, mais c'est tant. Je vais rajouter du temps de transport ou de montage, démontage, mais c'est vraiment des forfaits. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu calcules un coefficient multiplicateur pour rentrer dans tous tes frais d'essence, de temps passé, d'installation, etc., etc. Et puis d'amortir tes achats.
Et du coup, pour gérer toi ta vie de freelance, est-ce que tu as des outils, des choses qui t'aident à piloter justement ces deux activités ?
Alors moi, je suis très old school. Je ne suis pas très bien accompagnée sur les outils parce que je n'ai pas pris le temps de chercher. Donc
d'accord.
j'utilise tout bêtement des tableaux Excel sur Google Drive et je fais un petit onglet par client. Après, ça peut être en fait difficile quand même de... Il y a un côté un peu schizo, hein, des fois, où on est sur un truc, sur l'autre, je suis sur un devis d'un truc, je bascule sur une demande de mariage et ceci et cela. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde.
Ouais.
Si on cherche un cadre hyper précis, un rythme très défini,
ouais.
Ça ne marche pas. Mais je pense...
Oui, oui, oui.
Même le freelance au global, enfin...
Oui, il faut être quand même assez carré. Mais sur la partie ouais. outils aussi, tu vois, ce qui est... intéressant, c'est que quand c'est pas forcément évident pour soi, de pouvoir avoir quelque chose de carré, tu vois, genre un devis fait dans un template que tu dupliques, que ce soit pour tes clients communication ou tes clients fleuristes, déjà ça aide. Moi, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Blanc et franchement, ils sont là, ils t'aident dès que tu as une question, tu peux leur poser, tout est clair quoi, et c'est beaucoup plus simple en fait.
Je pense que c'est hyper important d'être accompagné si on sent qu'on. Ouais, qu'on hésite sur certaines choses. Moi, je sais que quand je me suis mis en tête que quand ça allait se développer encore plus en termes de chiffres et peut-être que mes deux activités allaient plus s'équilibrer, je vais faire appel, je pense, à quelqu'un pour m'aider sur la compta ou ce genre de choses parce que j'ai pas envie de faire des bêtises et d'être rattrapée.
Ouais, c'est hyper important. Et puis en fait aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on est freelance, finalement, notre cœur de métier, c'est pas de gérer la boîte.
Exactement, c'est un autre métier.
C'est un autre métier, la compta, le côté fiscal, etc. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ouais.
Et déjà, c'est vrai que sur le métier de fleuriste, c'est un métier qui a plusieurs métiers parce que tu as déjà le métier d'acheteur.
Mm-hmm.
Enfin, quand tu vas avec ta carte à Rungis, que tu fais tes commandes, il y a quand même un travail de sourcing qui est important, de savoir ce que tu vas acheter, chez quel fournisseur tu vas aller. Il faut que tu connaisses bien quand même le marché. Rungis, c'est grand et c'est petit à la fois. Enfin, t'arrives vite à voir avec qui tu peux travailler et qui tu peux pas travailler. Donc, tu as aussi ce métier d'acheteur qui est hyper important et qui est aussi une partie de gestion de tes comptes importante pour gérer la quantité.
Mm-hmm.
Tu vois, tu as une arche, tu as un
gestion
truc.
Gestion de trésor aussi.
Ouais, c'est ça. Parce que ça, oui, c'est ça aussi. C'est que souvent, tu vas payer. Bon, tu peux laisser un peu traîner, c'est 30 jours max. Mais moi, je demande toujours un acompte de 30%.
Mm-hmm.
On va dire une semaine ou deux avant l'événement pour pouvoir faire mes achats.
Bah oui.
Et ensuite, bah voilà, il paye le jour J quand je viens installer. Donc mes comptes pro sont extrêmement sains.
Ouais.
Parce que je pense qu'aussi, il faut auto-entrepreneur finalement, en plus qu'on bénéficie de l'ACRE la première année qui te permet du coup d'avoir. Moins 50%, on va dire, sur les charges, les cotisations que tu payes, on peut vite être tenté de se dire « Oh, j'ai pas tant de cotises, finalement, je vais me prendre un max dans la poche. » Moi, je sais que je me verse, en fonction des mois, 50% peut-être de ce que je gagne, sachant que je paye que 10% de cotisations depuis le début, plus on rajoute un peu d'impôts. Ben, ça me fait une belle trésor au bout de seulement 5 mois, parce qu'en fait, j'ai mis de côté. Et donc, surtout sur une double activité. S'il y a une activité où on a besoin de sortir de la trésor régulièrement, il faut la construire dès le début.
C'est hyper important, je suis d'accord avec toi. En fait, les métiers de freelance, c'est aussi des métiers où s'il y a un coup dur ou une baisse d'activité, un client, fleuriste ou communication digitale qui lâche, ben en fait, il faut avoir le temps de se retourner, de trouver un autre client, un autre partenaire. Et tu as raison, je trouve que c'est hyper important, la trésorerie. Et d'avoir une banque et des outils qui te permettent de piloter tout ça et d'avoir une vision claire de ce que tu as et de où tu en es, je trouve que c'est vraiment très, très important.
Et fleuriste aussi, il faut garder à l'esprit qu'il faut acheter des outils quand même.
Ouais.
Et puis aussi des choses pour tes décors, des vases, des arches, des fioles, des machins. Ça va très vite. Et donc, du coup, ouais, il faut avoir des comptes sains.
Donc, dans tes deux activités, tu dirais que, en termes de temps, quelle est la part pour la com et quelle est la part pour la partie fleuriste ?
Ça va dépendre, encore une fois, des périodes. Tu vois, par exemple, au mois de mai, là, je pense que je vais presque être à 50-50.
D'accord.
Parce que j'ai deux mariages, j'ai le week-end de la fête des mères, bah, ça va me prendre en tout une dizaine de jours, tu vois. Par contre, au global, je dirais que c'est plutôt du 70-30, voire 80-20, donc pour la com en majorité, à certaines périodes. Moi, j'aimerais bien rééquilibrer ça.
D'accord.
Mais j'ai aussi un problème logistique pour l'instant, qui est que bah, je suis à Paris, dans un appartement, donc je n'ai pas d'atelier. Donc on est en train, avec mon mari, d'avoir un projet de petite résidence secondaire.
Super.
En Normandie, très proche de Paris. Et du coup, pour moi, là, ce serait l'occasion, justement. L'idée, c'est que j'installe mon atelier là-bas.
Trop cool.
Et que je puisse avoir, bah, c'est tout bête, mais une camionnette que je puisse garer là-bas. Donc voilà, ça, c'est aussi un truc quand on commence à développer. C'est ça qui est dur, c'est que la com a été plus facile à développer au début. Déjà parce qu'aussi, j'avais le réseau là-dedans. Et aussi parce qu'en termes d'outils, je me suis racheté un iPhone Pro. Et puis
et
voilà.
C'était
quoi.
Bon quoi. Mais ça, c'est un truc qui est hyper, hyper important. Dans les métiers freelance, les métiers de marketing, de commercial, etc., c'est non négligeable qu'en fait, l'investissement de départ, il est quasi nul, à part quelques outils et un bon ordinateur.
C'est ça.
L'investissement, il est minime. Et tu disais tout à l'heure, on a de la chance parce que c'est aussi en France facile de faire ce switch de salariat à free. Ce qui est trop intéressant, c'est que tu as les deux activités. Tu as cette activité où finalement le lancement en com, il te coûte pas grand chose. Mais en tant que fleuriste, l'investissement initial, il est quand même plus important. En tout cas, il se construit sur le plus long terme.
Exactement. Et du coup, finalement, mon activité en com vient aussi financer mon activité de fleuriste. Parce que c'est grâce à ce que j'ai ramassé, on va dire, sur mes contrats en com, que j'ai pu faire ma trésor. Et donc, c'est cette trésor-là, finalement, pour mes activités de com, à part m'acheter un outil ou deux, j'y touche pas. Donc, en fait, par contre, elle va me permettre d'acheter ma camionnette. Elle va me permettre d'avancer les frais quand j'ai besoin pour, avant d'être payée par les clients. Elle va me permettre de voilà, faire du stock, etc. Donc, en fait, l'une vient aider l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'hésite pas à prendre des missions et à carburer sur la com un peu plus. Parce que je sais que sur la période où je vais être sur les fleurs, sur l'été, etc., ça va vachement m'aider et ça va me permettre d'être un peu plus relax si j'ai un client qui me paye un peu en retard, tu vois.
Ouais. Mais ça, je trouve que c'est une force aussi du modèle du slash,
oui,
tu vois.
T'es pas dépendant d'un seul,
d'une seule activité. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier,
exactement,
en fait.
Exactement. Et je me dis aussi, demain, mon activité de freelance, elle connaît un down. Je sais pas pourquoi. Je perds des clients. Enfin, on sait jamais de quoi demain est fait. Je me dis, je peux toujours trouver, même en retournant salarié, un CDD, un mi-temps, chez un fleuriste, ça recrute beaucoup, ils ont du mal à recruter. Bah voilà, je descends dans la rue, j'en trouve un ou deux, je fais un mi-temps quelque part, le temps de remonter un peu la pente.
Ouais.
Plus facile que de repasser 1000 process d'entretien pour faire un CDI dans une boîte de com, quoi, et ce dont j'ai pas envie en plus.
Ouais, complètement.
Donc c'est aussi d'avoir ajouté une corde à mon arc et une sécurité, enfin moi qui me rassure en tout cas, de me dire si jamais je peux faire ça.
Tu dirais que ça t'a pris combien de temps finalement pour vivre de ces activités-là ?
Bah, dès le début.
Ouais.
En fait, vu que j'ai anticipé avant même de finir ma formation, j'ai eu mon salaire d'alternance qui est tombé le dernier fin août. Septembre, je n'ai pas encore facturé. Je crois que j'ai fait ma première facture en octobre, donc j'ai été payée un mois après, donc fin novembre. Donc si, j'ai dû avoir 2 mois de Pôle emploi. Pour m'aider, mais voilà quoi. Au bout
de après,
mois,
t'as plus de payer, quoi.
Ouais, là j'ai Pôle emploi, j'ai fait une demande. Alors, ça, c'est un dispositif aussi que je recommande. Si jamais vous êtes chez Pôle emploi et que vous créez votre société, j'ai demandé l'ARS. Donc, si on a l'ACRE à l'URSSAF, donc cette aide de décote, qu'on a été chez Pôle emploi, on peut demander l'ARS qui en fait permet de toucher un pourcentage de ce qui nous reste d'indemnité journalière.
40, non ?
Alors, avant, c'était 40, maintenant, c'est 60%.
Ah,
alors,
ouais.
Moi, j'ai pas de chance, parce qu'avec la date de ma fin de contrat, je suis au 40%. Maintenant, c'est passé à 60% depuis fin d'année dernière.
D'accord.
Donc, ça permet d'avoir 60% des indemnités qui nous restent versées en 2 fois. Une première fois, la création de la société, et une deuxième fois, 6 mois après. Et donc, quand on se lance dans des activités type fleuriste où on a besoin d'investir, ça peut permettre de faire une trésor de départ. Donc, c'est un calcul qui se fait. Est-ce que vous préférez recevoir une aide tous les mois pour compléter votre chiffre, parce que ça peut se faire aussi? Ou est-ce que vous gagnez assez? Et donc, peut-être que c'est intéressant de prendre la trésor.
Mmh. Ouais, c'est bien. Hein. Cet apport en trésor, il est quand même non négligeable.
Et c'est pas connu, forcément. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit, mais j'avais jamais vu ça. Donc, vraiment, là-dessus, il faut toujours se renseigner sur ce qu'on peut avoir. Il existe beaucoup de choses.
Carrément. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui?
Alors,
YOLO.
Ouais, voilà, c'est un peu
un jour à la fois.
En fait, c'est un peu. Et là, je t'en parlais un petit peu en off tout à l'heure. C'est vrai que j'ai eu un petit down là, ce début de semaine très récent, parce que justement, je me suis rendu compte que j'arrivais pas tant que ça à cloisonner. Moi, qui m'étais dit c'est hyper facile, je vais tout organiser mes journées, je suis quelqu'un d'hyper organisé en plus, je me suis rendu compte que le travers, c'était justement de ne pas réussir à me mettre de barrières et de limites sur mes horaires de travail. Donc, plus sur le côté com, d'avoir mon téléphone que j'allume dès le matin, mon téléphone perso, pro. J'ai même pas eu le temps de déjeuner, que je suis déjà en train de regarder des trucs, de culpabiliser si j'éteins à telle heure. Et en fait, le fait aussi de bosser avec des artisans qui travaillent en décalé. Donc, moi, le samedi, j'ai envie de me reposer, de profiter de mon week-end. Eux, ils m'envoient encore des trucs. C'est compliqué de mettre les barrières et donc là, il faut vraiment que je travaille là-dessus pour que mes semaines ressemblent un peu plus à quelque chose. Globalement, j'ai fait le choix de ne pas remplir mes journées à 100% parce que déjà, il y a aussi une limite à un compte fixe. Freelance, on peut aller à la course aux missions, ça peut ne jamais s'arrêter, on peut faire des journées de 12
heures. Ça peut être une fuite en avant.
Ouais, c'est ça.
Si tu dis pas stop.
Si tu dis pas stop, moi je sais de combien j'ai besoin pour vivre, je sais qu'au-dessus je suis toujours contente de les prendre, mais c'est pas. On va dire que la rémunération, moi, c'est pas ce qui me fait avancer le plus. Je préfère être équilibrée dans mon quotidien que de gagner 5000 euros par mois. Donc, j'ai fait le choix de gagner un peu moins pour l'instant, avec des quand même très beaux mois. J'ai des pics de temps en temps, mais on va dire globalement, je suis sur un salaire plutôt correct. Et donc, ça me permet d'organiser mes journées en faisant un peu de mission par-ci, par-là. Je me pose une heure ou deux le matin, je fais un point, je bosse sur mes contenus. Je vais souvent aussi une semaine sur deux en tournage chez mes clients pour faire des vidéos chez la fleuriste, pour faire des vidéos avec l'huile d'olive, ce genre de choses.
Ouais.
Donc ça, ça me prend un peu de temps aussi, mais plutôt une semaine sur deux. J'ai généralement une semaine très dense, une semaine un peu plus calme. Ça m'a permis aussi de lancer un podcast que je voulais créer depuis un moment.
Très bon podcast.
Merci.
Bravo.
Qui s'appelle Les Façonniers, où justement, je voulais mettre en avant la réalité des métiers qu'on connaît un peu moins, qui ne sont pas les métiers de bureau, et montrer que ce n'est pas forcément toujours des paillettes, ce que ça implique comme formation, etc. Donc, j'ai voulu aussi me laisser du temps pour faire ça. Et puis après, fleuriste, j'aimerais bien réussir à caler dans mon agenda le fait de juste une heure comme ça, sans rémunération, mais juste pouvoir en fait passer à la boutique où je travaillais avant. Et elle m'a dit, tu peux venir quand tu veux, pour juste filer un coup de main en fin de journée et moi mettre un peu les mains dedans. Parce que là, aujourd'hui, dans ce que je n'ai pas encore réussi à bien faire, c'est que ça me manque un peu de ne pas en avoir toutes les semaines. J'ai des semaines qui sont plutôt, même si je ne suis pas derrière mon ordi tout le temps, ce que je bouge et puis que j'ai le temps de faire autre chose, ça me manque un peu là de pratiquer. Je ne pratique pas assez. Là, ça va me faire du bien, les mariages, parce que je vais remettre la tête dedans et les mains dedans. Mais voilà, il faut que j'arrive, on va dire que c'est le...
Ouais,
c'est le truc à réussir à rééquilibrer, c'est ça.
Mmh. Ouais, c'est intéressant. Puis je sais pas s'il y a un équilibre parfait, tu vois.
Je pense que ça n'existe pas.
Ouais.
Dans ma tête, je m'étais dit, ouais, je vais arriver à faire 50-50, c'est pas possible. Ça dépend aussi de la demande des gens. Et par contre, ce qui est important, c'est de réussir à continuer de pratiquer parce que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais
quand même.
C'est les mains qui se font au métier et c'est des métiers, on a beau avoir les techniques, si on ne pratique pas régulièrement. On va pas progresser,
quoi. C'est un métier
d'artisan.
C'est ça. Donc, dans tous les cas, c'est ça. Tu sais
faut que la main se fasse au geste, au produit, etc. Mmh.
Génial. Trop bien. Tu sais que ça me donne envie d'avoir une
Je vais t'interviewer dans 2 ans. Tu vas être céramiste.
Une activité manuelle. Non, mais c'est un truc auquel je pense pas mal. Je suis énormément derrière mon ordinateur.
Ouais.
Et je me dis...
Ça fait du bien.
Franchement, j'aimerais bien, pas du tout de suite, mais... me dire un jour, j'aurai un combo, tu vois. Mm. Donc, je suis trop contente de ton témoignage, parce que c'est hyper inspirant.
Je suivrai ça.
Peut-être dans les façonniers, voilà. Dans 3 ans, qui sait.
Avec grand plaisir.
Laurie, on arrive à ma dernière question, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans?
Alors moi, il va être très clinquant, mon board.
Vas-y, envoie-nous les paillettes.
Je vais pas te sortir des noms d'entrepreneurs, etc. Parce que j'ai un peu la phobie des entrepreneurs. Enfin, c'est horrible, mais genre LinkedIn, tous
ouais,
ces morning routines, ça me... Waouh, non, j'arrive pas.
Ouais.
Du coup, je vais te sortir donc 3 noms. Le premier, ça va être Emma Watson.
Ouh, j'adore.
Voilà, parce que je trouve qu'elle a su transformer une image, ou voilà, Harry Potter, quoi. Porter l'égalité homme-femme à des grands sommets de décisions et d'institutions. Elle est créative, elle est passée à la réalisation. Enfin, elle fait la littérature. Elle a aussi beaucoup œuvré pour contrer l'illettrisme,
ouais.
Faire découvrir des œuvres, etc. Et en fait, je trouve que c'est une femme hyper inspirante qui ne se met pas de limites, qui ne se laisse pas enfermer dans une case et qui est hyper créative aussi.
Ouais.
Et donc, pour ça, pour avoir des guidelines un petit peu...
J'adore.
J'aimerais beaucoup l'avoir.
Tu sais que je crois que tu es la première à le dire. Je me dis, mais oui, bien
oui,
évidemment.
Emma Watson. La deuxième personnalité, ce serait Jay Shetty. Je sais
ouais,
pas.
Ouais.
Donc,
okay.
Qui est donc, si certaines personnes ne connaissent pas, donc qui est un Britannique d'origine indienne qui a été moine pendant plusieurs années, qui est maintenant hyper connu parce qu'il fait beaucoup de développement personnel. Il a un podcast qui s'appelle On Purpose qui est incroyable où il interviewe des grandes rostas et il donne des conseils sur notre quotidien, sur avoir confiance en soi, etc. Le mec a quand même bossé chez Accenture après avoir été moine. Donc
j'adore cette vie,
voilà,
moine, Accenture.
Vraiment, oui. Il a un parcours de fou et il est plein de sagesse. Et je pense que moi, qui suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'émotionnel, d'avoir quelqu'un comme ça qui est capable de recentrer,
ouais.
De m'aider à me focus,
décanter.
Voilà, décanter tout ça, m'aider à faire la part des choses, ne pas mettre trop d'émotions quand il n'y en a pas besoin et en mettre quand il y a besoin. Enfin, et quelqu'un qui est hyper inspirant,
ouais.
J'ai besoin de ça aussi. Donc Jay Shetty pour le deuxième et la troisième personne, ce serait Beyoncé.
Ouh
ouais, parce qu'elle... Pareil, j'ai besoin d'une vraie badass, quoi.
Ouais.
Et elle, on a... Enfin, voilà, elle est incroyable pour sa musique, pour ses shows, etc. Mais c'est une businesswoman de fou.
Ouais.
La nana arrive à être partout, à chaque fois où on ne l'attend pas. Et ça,
mais attends, mais le nombre d'albums...
Oui.
Moi, je suis de loin et je suis... Comment elle a pu sortir un album de 24 titres?
Elle a mis 3 ans dessus, hein.
Ouais, mais elle en a sorti un il y a un an et demi, 2 ans.
Et c'est ça que je trouve incroyable. Prolifique. C'est que, et en plus, quand elle bosse en sujet, elle le bosse à fond.
Ouais.
Donc, je pense qu'elle peut apporter, dans mon board de rêve, le côté rigueur, la confiance en soi. Et l'intelligence créative aussi. Parce que quand elle entreprend un truc, quand elle a une décision créative, tout est symbole. Tout est hyper pensé, tout est millimétré.
Waouh, c'est clair.
Et donc, du coup, je trouve qu'elle est hyper inspirante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique. Je trouve
on ne peut que reconnaître...
Ouais, que reconnaître son travail et ce qu'elle a su faire. Enfin, voilà, la nana,
c'est
aujourd'hui, c'est une référence dans énormément de milieux. Et elle a réussi aussi on va dire, à garder un équilibre perso, je pense, dans le sens où elle est très protégée. Enfin, on voit pas... elle dévoile ce qu'elle veut dévoiler.
Ouais.
Elle a aussi une maîtrise parfaite de son image. Et ça, je pense que quand on arrive dans un business, qu'on monte son business, c'est hyper important. Et moi, j'ai plus de mal avec ça. De savoir définir ce qu'on donne à ses clients et de sa personne et ce qu'on garde pour soi et définir un petit peu son soi personnel et professionnel. Et je pense que là-dessus, elle serait aussi d'une très grande aide. Donc voilà, mon board, Emma Génial. Watson, Jay Shetty et Beyoncé.
Wow, bah écoute, je te souhaite de vivre ce dîner un jour.
Moi, j'aimerais bien, ouais.
Invite-moi, s'il te plaît, si ça arrive.
Avec grand plaisir.
Laurie, je mettrai toutes les informations pour découvrir ton travail, ton activité de communication digitale. Ton site est très bien fait.
Merci.
Je l'ai vu, j'étais là, c'est très clair, j'adore, tout est carré, on comprend tout à fait ce que tu fais, donc vous pouvez aller voir le lien est en barre d'infos, et je mettrai aussi le lien pour ton podcast, qui est vraiment très chouette. Ravie de t'avoir rencontré en vrai,
bah oui,
enfin.
Ravie également, et merci de m'avoir reçue.
À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Laurie Freitas. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment construire une vie professionnelle de slasher en combinant digital et artisanat. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts ou Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.